Donc moi, je vais parler ce soir de l'œuvre de Dieu dans nos vies. C'est vrai que Angela m'a demandé, lorsque nous étions à Baltimore, si je pouvais partager. Et après, le moment d'angoisse qui peut envahir, qui peut nous envahir, j'ai tourné mes yeux vers Dieu et je me suis dit, t'as peut-être une idée. Et puis, il m'a rappelé des enseignements que j'avais reçus il y a bien longtemps, quand j'étais à l'Institut biblique, et en relation avec ce que je vivais aussi à Baltimore, aux États-Unis, où on a assisté à une convention qui nous a fait beaucoup de bien. Et moi, ça faisait 4 ans que j'étais pas allée là-bas, dans cette église, et j'ai été rafraîchie, spirituellement, j'ai été repris aussi, et ça fait du bien, parce que dans Psaume 133, il nous est dit que quand les frères se rassemblent, eh bien, il y a une bénédiction, il y a une onction qui coule sur nous, et c'était au travers de ce qu'on pouvait entendre de la parole de Dieu, et c'était aussi au travers de la vie des gens, où on pouvait voir simplement des gens qui vivaient la parole de Dieu. On était dans un endroit, moi j'étais considérée comme une missionnaire, c'est vrai, je le suis, même si je suis en France, mais on est missionnaire là où nous sommes, et en même temps, je sais que j'étais pas regardée et vue comme, dis-moi combien tu as fait de convertis, enfin, ils regardent pas les chiffres, on est accueillis, on se sent comme des princesses, comme dans 1 Corinthiens 13, vous voulez parler de l'amour, parfait, en fait, le vrai amour, c'est un amour qui n'est pas envieux, qui est patient, qui croit le meilleur, et je peux dire que j'ai vécu cela au milieu des frères et sœurs là-bas à Baltimore. Alors, quand on se retrouve dans un autre pays, il y a toujours quand même un choc culturel, hein, parce que nous, les Français, on est les meilleurs, mais... Ça, c'est ce qu'on pense toujours. Hein, c'est quand on est dans un pays étranger qu'on réalise qu'on est très chauvin. Hein, enfin, en ce qui me concerne, hein, je veux dire, on a la meilleure nourriture, on est les plus intelligents. Enfin, mais bon, Dieu agit quand même dans d'autres pays. Et non, mais Baltimore, c'est donc c'est une blague. Cette église à Baltimore, elle me touche beaucoup parce que c'est une église qui a beaucoup de maturité, qui est là depuis longtemps. Et en même temps, autant pour recevoir beaucoup de choses très riches, de la parole de Dieu, des gens très expérimentés. Et en même temps, cette église est constituée de gens simples, parfois des gens même handicapés physiquement, et je dis, mais l'église, c'est ça, c'est pas des super-héros, c'est pas des athlètes qui sont au top à tous les niveaux. C'est une église, c'est un endroit où tout le monde peut être accueilli. Et puis il y a des membres faibles, et puis ils sont soutenus par d'autres. Je pense à cet homme que j'ai toujours vu quand j'étais soit étudiante à Baltimore et après lors de conférences. Et là, il peut pas se déplacer tout seul parce qu'il a une maladie des nerfs, je pense. Ça ressemble un peu à la maladie de Parkinson, mais c'est pas trop ça. Donc, il fait des mouvements assez incontrôlés et il chante dans la chorale. Et il y a quelqu'un qui le soutient et puis qui l'aide à monter et à descendre. Et je dis, c'est ça l'Église, en fait. C'est ce membre-là, il est aussi important que le missionnaire qui est parti en Chine parce que il est dans son état, il est fidèle là où il est, dans l'appel que Dieu lui donne, quoi, dans sa capacité. Donc, moi, ça fait un labourage, je veux dire, dans mon cœur, ce temps que j'ai passé là. Et donc, j'ai eu envie de parler comment Dieu fait son œuvre dans nos vies, quoi. Et donc, la première chose qu'on peut voir, déjà, dans 1 Jean, chapitre 3 et verset 2, et ça, c'est vraiment le prémisse de ce dont on va parler. Alors, comme j'ai pas Bible Online, je ne connais pas tous les secrets de Bible Online, j'ai mes petits trucs dans ma Bible. Alors, c'est au verset, donc, chapitre 3, verset 2. ça va presque aussi vite. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Donc ça c'est vraiment, Dieu dit ça, c'est une promesse. Si nous sommes enfants de Dieu, comment être enfant de Dieu? C'est simplement se reconnaître comme orphelin, peut-être se dire « qui suis-je aux yeux de Dieu? Comment Dieu peut m'accepter ?» C'est vrai, à cause du péché, il y a une séparation entre l'homme et Dieu. Mais par la croix de Jésus-Christ, il y a eu une réconciliation. Et si simplement nous reconnaissons que nous sommes pécheurs et que nous avons besoin d'un sauveur et que ce Jésus qui est mort sur la croix, il est ce sauveur, alors la Bible dit que nous devenons enfants de Dieu. Donc Jean, l'apôtre Jean, s'adresse à des gens qui ont fait cette démarche et il dit nous sommes donc enfants de Dieu, on a ce privilège de savoir que Dieu est notre Père, maintenant nous sommes acceptés et nous sommes en paix avec lui. Et donc voilà, cette image sûre et certaine, c'est que nous serons comme lui. C'est vraiment déjà réconfortant. Parce que sur la croix, il a accompli tout pour nous. Et maintenant, le chemin qu'on a sur cette terre, c'est de le découvrir lui. Et il veut nous façonner à son image. Alors c'est vrai qu'il y a l'image finale qui nous est déjà présentée, c'est qu'on sera comme lui, donc pas de problème. Mais ici-bas, sur cette terre, il veut façonner son caractère en nous. Et dans Éphésiens 2:10, il nous est dit que nous sommes son ouvrage. Et le mot pour ouvrage, c'est un mot que j'aime beaucoup, c'est poiema. Et ça veut dire, c'est un produit, un tissu, un ouvrage, une chose fabriquée. Et donc, si on tourne, alors si je retrouve mon petit papier, c'était quoi Éphésiens ? Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc Dieu, il veut faire son ouvrage en nous. Et il y a un autre mot là qui est un peu semblable, mais qu'on trouve dans l'Ancien Testament et qui parle un petit peu de cette chose-là. Et on le trouve dans le psaume 139 au verset 15. Et là, ça parle de nous lorsque nous étions dans le sein de notre maman. Et il est dit que « mon corps n'était point caché devant toi, lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. » Et le mot « tissé », alors en hébreu, c'est « rakam », R-A-Q-A-M, pour ceux qui veulent connaître l'orthographe. Et là, ça parle d'une broderie. Brodé, tissé et mêlé des couleurs. Donc, on voit après ce passage, ce mot, on le voit lors de la construction du tabernacle. Et puis, lorsqu'il est demandé de faire des ouvrages de broderie, et il y a toujours cette idée aussi de couleurs. Il y a du bleu, il y a vraiment... C'est très très beau. Quand j'étais aux États-Unis, il y avait la représentation du tabernacle. Angela, tu es allée le voir? Nous, on n'a pas eu le temps d'y aller. Mais il y a la possibilité, si vous allez aux États-Unis, en Pennsylvanie, vous pouvez voir le vrai tabernacle reconstitué. Et je pense que ça vaut le détour. En tout cas, c'était quelque chose de très coloré lorsqu'on voit cette description. Donc, au travers de ces deux passages, on voit que l'œuvre de Dieu est, dans nos vies, elle est comme une broderie. Et donc celle de Psaume 139, c'est celle de notre naissance physique. Déjà Dieu, pour chacune d'entre vous, il a fait une œuvre d'art. Vous pouvez dire déjà, voilà, je suis une œuvre d'art parce que dans le sein de ma mère, Dieu m'a tissé de cette manière-là. Et puis lors de notre nouvelle naissance, comme la Bible dit dans Jean chapitre 3, versets 4 à 8, Jésus s'adresse à un homme qui pourtant connaît la parole de Dieu, Mais il lui dit, tu dois naître de nouveau, tu dois recevoir l'Esprit de Dieu, c'est pas simplement une connaissance, c'est vraiment me connaître moi. Et donc la Bible parle d'une nouvelle naissance lorsqu'on se tourne vers Christ, parce que son Esprit vient habiter en nous. Donc ça c'est l'œuvre spirituelle qui commence en nous. Et donc j'ai apporté quelque chose. Je suis pas une artiste, mais quand même une petite illustration. Alors j'avais pas trop le choix, j'étais chez ma maman, alors il a fallu que je prenne avec ce qu'il y avait. Allez, on va voir. Voilà. Que ce soit une broderie, que ce soit un tableau dans une peinture ou quoi. Bon ben voilà. Là, je vous dis pas que vous ressemblerez à ça lorsque Christ aura terminé son œuvre en vous. Mais c'est quand même joli, hein. Je sais pas, c'est mieux qu'un bulldog ou quoi. Enfin donc, bon. Donc c'est quand même un pan, c'est élégant et tout. Donc là, on voit plusieurs couleurs. Alors c'est pas une broderie. Dans une broderie, si vous tournez l'envers, en fait, vous voyez un tas de nœuds. C'est pas du tout intéressant. Mais en même temps, ces nœuds sont nécessaires parce que sinon vous utilisez qu'une seule couleur et en fait, bon, on voit pas vraiment ce que vous voulez dire, quoi. Moi, j'aime bien l'abstrait, mais bon, c'est un style, quoi. Bon, il y a que du bleu ou du noir, quoi. Mais bon. En même temps, donc voilà, dans une broderie où il y a à chaque fois que vous changez de couleur, est-ce que tu connais ça, René? Tu fais des canevas? Non, bon, j'aurais cru. Mais bon. C'est qui, Séverine? Ah, tu vois. Bon. Alors, donc chaque fois qu'on change de couleur, on fait un petit nœud et tout ça et puis on change. Donc c'est vrai, parfois on regarde nos vies, on les regarde comme ça, on voit que des nœuds. Et puis on se dit, c'est n'importe quoi, hein, ça, c'est pas beau et tout ça, ça sert à rien. Mais rassurez-vous, il y a un endroit et Dieu veut nous montrer l'endroit et puis il veut nous encourager qu'il y a un endroit et qu'il y a vraiment quelque chose de beau qu'il est en train de faire au travers de nous. Et voilà, donc je vais me rasseoir quand même parce que vous pourrez admirer cette œuvre d'art après, si vous voulez. Donc il y a un mot grec qui parle de toutes ces couleurs aussi, et c'est poikilos. Donc Patricia, tu es bien d'accord avec moi, tu as appris ces mots-là aussi. Donc poikilos, ça veut dire multicolore, et on trouve ça dans 1 Pierre chapitre 4 et verset 10, où il nous est dit que comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Donc c'est ce mot-là, divers, qui veut dire multicolore. Et on peut voir que il y a diverses grâces que Dieu nous donne. La grâce de croire, c'est une grâce, c'est quelque chose que Dieu donne. En même temps, il le donne à tous les hommes parce que il veut que tous soient sauvés. Je sais que moi, j'étais adolescente quand j'ai invité Christ dans ma vie, qu'on m'a annoncé l'Évangile. Dieu s'est présenté à moi. On dit qu'on cherche Dieu parfois, mais c'est lui qui nous cherche en premier. Et après, c'est sûr que j'avais un choix à faire. Je pouvais continuer ma route et puis voilà, ou alors me tourner vers Christ et puis avoir une nouvelle vie, quoi. Et donc, je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais c'est pourquoi. Multicolores, les diverses grâces, les dons, la grâce de croire. Donc il y a d'autres grâces, donc les diverses. Alors là, on voit que c'est les dons au service de l'Église dans 1 Pierre. Alors j'ai voulu voir un petit peu avec ce que j'avais d'autres types de grâces. Et dans 1 Corinthiens 15-10, on voit qu'il y a la grâce de s'accepter avec notre passé. Là, c'est Paul. L'apôtre Paul qui parle. 2 Corinthiens 15, 10. 1. Ah ouais, c'était pour voir si vous écoutiez bien. On se rattrape toujours comme ça. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Et juste avant, en fait, il parle de lui, qu'il est le moindre des apôtres, qu'il a persécuté l'Église, donc il avait un passé très lourd. Hein. J'ai vu donc un aspect de la grâce de Dieu et qu'on doit vraiment s'approprier de s'accepter tel que nous sommes. Et malgré le passé qu'on a pu avoir, Dieu peut nous utiliser. Il a vraiment un plan pour nous et nous pouvons aller de l'avant. Ensuite, dans 2 Corinthiens, chapitre 12 et verset 9. Là, c'est 2 Corinthiens. Et il m'a dit, c'est toujours Paul qui a prié le Seigneur plusieurs fois qu'une écharpe lui soit enlevée. Alors, on ne sait pas si c'est une maladie, si c'était quelque chose qui le tourmentait ou quoi. Il dit, ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Donc, il y a une grâce dans la faiblesse aussi. C'est quand on se sent faible dans un domaine ou dans un autre, de pouvoir savoir que Dieu est là et il nous donne sa puissance. Quoi. C'est pas un problème de se sentir faible. Ensuite, dans 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 8. Ça m'a beaucoup touchée, cet aspect de la grâce de Dieu. Verset 8 à 11. « Nous ne voulons pas en effet vous laisser ignorants, frères, au sujet de l'affliction qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Et nous regardions comme certain notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. C'est lui qui nous a délivrés, qui nous délivra d'une telle mort. Lui de qui nous espérons, qui nous délivra encore. Vous nous assistez vous-même de vos prières, afin que la grâce obtenue pour nous par plusieurs soit pour plusieurs une occasion de rendre grâce à notre sujet. » Et j'ai vu que il y a une grâce qui est obtenue par la prière des autres. Des gens ont prié pour Paul et pour peut-être ses compagnons et ils ont reçu vraiment une grâce. Et moi, ça m'a encouragée dans le domaine de la prière. Je suis en train de prier pour telle personne et Dieu intervient et il donne une grâce pour la situation que la personne est en train de traverser. On a aussi la grâce de se repentir dans Romains chapitre 2 et au verset 4. Au verset 3 d'abord. « Et penses-tu aux hommes qui jugent ceux qui commettent de telles choses ?» Bon non, c'est pas ça. Verset 4. « Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance ?» Donc la grâce de Dieu, la bonté de Dieu nous pousse à nous repentir. Et donc ne pas voir le fait de se repentir comme une pénitence, mais vraiment Dieu nous pousse, il amène parfois même des situations où on est peut-être parfois écrasé, on n'a plus le choix peut-être, mais pas le voir comme un piège, mais vraiment comme une grâce de la part de Dieu pour qu'on se tourne vers lui. Et dans Éphésiens 3, 7, je vais pas y tourner, mais c'est la grâce d'annoncer l'évangile. Et c'est pas une corvée, parce que moi, on peut peut-être le voir parfois comme ça, mais il est dit qu'il nous a été révélé ce mystère, entre autres que les païens aussi peuvent accéder au royaume de Dieu. C'est vrai que les juifs pensaient que il y avait que pour eux, quoi. Et puis là, on voit que c'est pour les païens aussi. Et donc, ça a été révélé aux saints, aux apôtres et aux prophètes, donc c'est à tout le monde, la grâce d'annoncer l'évangile. Et j'étais dans ma famille et je priais le matin, j'ai dit « Seigneur, donne une occasion qu'on puisse parler de toi ». Et puis, il l'a fait auprès de ma nièce, de ma sœur. Et on a parlé d'abord des derniers temps, c'est souvent ce qui qui préoccupe les gens, hein, ils voient. Et puis après, je dis, mais la Bible, sans donner de date, elle montre qu'on va dans ce sens-là, quoi. Et puis, donc après, on est arrivé parler de l'évangile plus précisément. Et c'était, moi, pour moi, c'était vraiment une belle chose que Dieu donne cette porte ouverte. Donc voilà. Il est possible de rejeter la grâce. Et dans 2 Corinthiens, chapitre 6 et verset 1, 2 Corinthiens, chapitre 6 et verset 1, c'est toujours Paul qui s'adresse aux gens. « Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. » Et c'est vrai que c'est triste de « en vain », ça veut dire « bon, ça sert à rien, quoi. Il n'y a pas de résultat. » Alors que ce que Dieu donne, c'est toujours quelque chose qui est fructueux. Et la grâce de Dieu, en fait, elle est disponible chaque jour. Il ne faut pas se dire « aujourd'hui, ben non, c'est trop tard, je suis trop mauvais, je suis trop pourri, je suis trop... » Voilà, la grâce de Dieu, elle est disponible chaque jour, à chaque instant. Il dit que les compassions de Dieu se renouvellent chaque matin. Et le remède contre en fait, l'inefficacité de la grâce, on le trouve dans Jacques chapitre 4 et verset 6. C'est que Dieu fait grâce aux humbles. Il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Quelqu'un qui dit, moi la grâce de Dieu, Dieu peut plus rien faire avec moi, c'est quelqu'un d'orgueilleux en fait. C'est qu'il s'élève au-dessus de Dieu et dit, non, toi tu peux pas faire quelque chose pour moi, quoi. Donc le remède, c'est de s'humilier et puis de dire, oui Dieu, tu connais mon cœur, tu connais la dureté de mon cœur, tu connais tous les méandres de mon être, mais je veux croire que tu es plus grand que ça. Alors il y a aussi un autre type de grâce dans Philippiens 1:29. C'est Pasteur Ambroise qui en a parlé à Paris et qui m'a encouragé de parler de ce sujet. Dans Philippiens 1:29, il dit « Car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. » Et c'est vrai, parfois on lit des passages, mais je sais pas, après il y a un éclairage particulier qui arrive et je dis « Ah bon, c'est une grâce de souffrir ?» Ça paraît un peu paradoxal. Et eh bien si, on voit qu'aussi le mot justement « poikilos », là, « divers », on le voit aussi associé aux épreuves, les diverses épreuves. Il y a les diverses grâces et puis il y a aussi les diverses épreuves. Et ça, on le voit dans Jacques 1:2, où il est dit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » Et aussi dans 1 Pierre 1:6, c'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Alors, les épreuves ont aussi des couleurs. Alors, peut-être que dans ce, je sais pas ce que c'est, hein, dans ce petit tableau, là, c'est peut-être le noir, c'est peut-être, peut-être le noir même qu'il y a dans les yeux, mais ça va faire ressortir le vert. Et c'est des couleurs qu'on n'aime pas. C'est peut-être une ombre qui va faire ressortir aussi la fleur. Mais ces couleurs-là, le marron, le noir et tout ça, c'est peut-être la couleur des épreuves. Mais Dieu dit, ben ça fait partie du paysage, ça fait partie de ce que je suis en train de faire dans ta vie. Et donc c'est vrai que aussi dans ces passages-là, il y a quelque chose d'étonnant, c'est que ce qui est lié aux épreuves, c'est la joie. Et ça aussi, ça peut se dire quand même, faut pas exagérer. Et il y a d'autres, pareil dans 1 Pierre chapitre 4, versets 12 et 13, il est dit « Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. » Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Et on sait que ce que les chrétiens, les premiers chrétiens ont enduré, la plupart d'entre eux ont été martyrs, et on peut dire que, qu'est-ce qu'on dit? On dit que l'Église, attends, comment on l'avait? Le sang des martyrs, était la semence de l'Église. Donc c'est vrai que des fois, j'essaie de me projeter. Je me dis, est-ce que je serai de ceux-là, quoi, qui vont dans les arènes et qui louent Dieu, justement. Et il y avait vraiment quelque chose de particulier, quoi, mais qui nous est donné à nous aussi, quoi, dans les épreuves qu'on peut traverser. Et nos réactions, plutôt dans l'épreuve, enfin, naturellement, c'est plutôt l'abattement, la tristesse, l'amertume et la colère. Et Pasteur Schaller nous disait qu'on vit dans un temps et dans une société où l'ego est très mis en avant. Il faut s'accomplir à tous les niveaux, physique, professionnel, familial, il faut être... Et donc, l'ego est vraiment au centre. Et si on regarde peut-être, l'ego a toujours été présent dans la vie des gens. Enfin, quand je parle de l'ego, c'est la mauvaise partie de notre être, quoi, qui recentre tout sur lui-même, tout l'égoïsme et tout ça. Et donc l'homme est égoïste de nature, peu importe le siècle. Mais en même temps, il y a des circonstances, un environnement qui favorise justement soit l'ego ou alors le renoncement à soi. Encore peut-être aujourd'hui dans certaines sociétés, on peut dire qu'il y a une solidarité, les gens ne pensent pas trop à eux-mêmes, ils pensent au bien de la communauté et tout ça. C'est encore un petit peu, c'est encore dans la mentalité. Mais dans les sociétés occidentales et tout ça, c'est beaucoup l'individualisme et donc l'ego qui est très très mis en avant. Et même dans l'Église, dans la vie chrétienne, ben c'est quelque chose qui nous influence. Donc ensuite, quand Dieu il amène justement des épreuves, des difficultés, des choses où il dit non, je veux pas que tu fasses ça dans ta vie. Que tu te sacrifies dans tel domaine, d'un coup on va dire ouh, mais alors il faut que je m'accomplisse, je vais être... Et voilà, on peut sortir le discours qu'on entend dans les médias, qu'on entend tout autour de nous, et Pasteur Chalin a dit beaucoup de chrétiens sont en colère contre Dieu parce que Dieu ne fait pas ce qu'il veut qu'il fasse, et donc c'est peut-être un mal, je veux dire, de l'Église d'aujourd'hui. Je sais pas, pendant la guerre, pendant au siècle dernier, les gens vivaient différemment. Il y avait peut-être, il n'y avait pas le confort qu'on avait, donc il y avait, les gens mouraient plus tôt, la médecine n'était pas ce qu'elle était, et tout ça, donc les gens peut-être pliaient le genou et ils savaient que la vie n'était pas mon petit moi qui s'accomplit, quoi. Alors que aujourd'hui, ben, on peut vraiment l'étaler comme on veut, quoi. Donc, et de vivre pieusement, de suivre Christ, je dirais, ça demande peut-être plus de se tourner vers Dieu et d'être à contre-courant. Voilà, je suis arrivée à le dire. Donc, Jean-Baptiste nous dit dans Jean, chapitre 3, versets 29 à 30, il dit aussi « Cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. » Et on peut pas dire que Jean-Baptiste était dans la meilleure situation. Il était déjà en prison, on lui avait pas encore coupé la tête, mais voilà. Donc, il avait une vision, une perspective qui était la bonne, en fait. Donc, même dans ces épreuves, la souffrance et la tristesse peuvent être présents, comme on le voit dans les versets, mais la joie aussi. Et ça, elle est là lorsque nous avons la perspective de Dieu. Parce qu'on peut traverser les épreuves, mais dans un état d'esprit ronchon, quoi. Voilà, j'endure, je serre les dents, mais en même temps, on reste dans la chair, quoi. On laisse pas Dieu faire son œuvre. Et quand il est dit, mais regardez comme une joie complète les diverses épreuves qui vous arrivent, je pense, c'est considérer, méditer, de penser que Dieu règne, qu'il est au courant, que ces épreuves ne sont pas vaines. Il est présent dans tout cela, dans la souffrance, dans l'incompréhension, dans peut-être aussi les pleurs, hein. Et que c'est pour l'avancement du royaume. Donc, tout le monde, enfin, chacun traverse ses épreuves, mais lui, il voit l'image entière, quoi. Ce que je traverse aujourd'hui, c'est peut-être pour que un jour, quelqu'un entre dans l'église et raconte sa vie et j'ai une compassion parce que je suis passée par là. J'aurais pas cette compassion si j'étais pas passée par ce chemin, quoi. Et en tout cas, peu importe dans l'état où on est, Pasteur Chaleur disait, n'essayons pas de soustraire le poison. Parfois, on peut voir des rébellions, des colères et tout ça qu'on peut avoir. Il dit, n'essayons pas de soustraire ça, mais ajoutons à notre foi. Donc, juste de s'édifier dans notre foi et puis de contempler Dieu et de voir la perspective que Dieu a pour nous. Et que produit la joie ? Dans Néhémie chapitre 8 et verset 10, il est dit qu'elle est une force. Et il est dit, ne vous agitez pas ou ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Ils avaient retrouvé la loi de l'Éternel, ils l'avaient écoutée, ils se sont dit, oh là là, on est mal barré. Dieu, il va nous tomber dessus ou quoi. Et donc, le prophète a dit, non, Dieu, il n'est pas comme ça, même si vous redécouvrez la parole de Dieu et tout ça, ce qui est demandé. Il dit, ne vous affligez pas. Il dit, parce que c'est la joie de l'Éternel sera votre force. Et c'est vrai que de cultiver un esprit de joie, de se réjouir, eh ben, ça a une incidence sur nous-mêmes, sur notre être même, sur notre corps. Ça nous vivifie. Il est dit que, je connais la chanson, mais c'est, un cœur joyeux, c'est comme un bon remède. C'est dans Proverbes. Bon, je vais pas vous la chanter, mais voilà. Et puis dans Jean, chapitre 15, verset 11, il nous est dit que Jésus nous donne sa joie. Je dis. Et on sait que la joie, dans Galates, chapitre 3, verset 22, c'est un fruit de l'esprit. Et ça se trouve en deuxième position. Donc, on a l'amour. Alors, certains disent que tous les autres fruits découlent de l'amour. Mais en tout cas, numéro 2, c'est la joie. Donc, c'est vraiment un aspect important. Et je sais que je suis maman, j'ai une petite fille, et je peux commencer ma journée la tête dans le guidon, et puis oublier simplement d'avoir un esprit joyeux et d'être reconnaissante à Dieu, et puis de regarder ma petite fille, et puis de remercier Dieu pour elle, pas simplement voir toute la liste des choses à faire pour la journée. Et je sais que ça change vraiment l'atmosphère, de raconter une blague, elle est très sensible à ça. Après, elle me demande 10 000 blagues, moi j'en connais qu'une, quoi, sur Toto, j'en connais qu'une, quoi. Mais bon, déjà, ça, c'est pas la véritable joie, mais ça commence, là. Voilà. Donc on peut dire que, pour conclure, j'étais un peu longue, notre vie est comme une œuvre d'art, donc que Dieu est en train de faire au travers des diverses grâces qu'il met à notre disposition et des diverses épreuves qu'il envoie. Et puis que nous soyons comme Paul qui a dit « Je veux terminer la course avec joie ». Je sais qu'il y a une missionnaire à Baltimore qui a témoigné sur ça et ça m'a beaucoup marqué. Elle dit « Je veux terminer cette course avec joie ». Et pas avec l'amertume, pas avec du regret, mais juste avec joie, de savoir que j'ai échoué, mais je me suis relevée, Dieu a été pour moi, et puis j'ai vécu ma vie avec Dieu et pour Dieu.